l'équivalent d'un mois de précipitations en 24 heures. Voilà pour l'info, excellente matinée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, eh bien, nous nous intéressons au mouvement contre le racisme et les violences policières à travers le monde. La mort de George Floyd aux États-Unis a servi de déclencheur pour de nombreuses manifestations à travers le monde, mais également en France, où malgré le contexte de l'épidémie de Covid-19 et les mesures d'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, de nombreuses manifestations ont eu lieu, notamment à Lille. Comment interpréter ce mouvement? Peut-on comparer la situation française à celle des États-Unis? Qu'en est-il dans la région? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie de Claudine Kaiser du groupe Amnesty International de Lens-Liévin. Ce sera d'ici quelques minutes, mais auparavant, on va s'intéresser à la précarité pendant la période de confinement avec un reportage signé PFM qui a interrogé la Confédération syndicale des familles.
La crise sanitaire étant aussi une crise économique, ce sont les personnes modestes qui sont en première ligne pour subir le choc. Si l'endiguement de l'épidémie semble proche, la situation économique risque, elle, de s'aggraver, exacerbant les situations de précarité. En tant que président de l'Union départementale du Pas-de-Calais de la Confédération syndicale des familles, Jean-Luc Durier, rencontré à la Maison des syndicats de Béthune, dresse un état des lieux de la situation.
Il faut déjà dire en entrée, si tu veux, c'est que la crise, elle a exacerbé des situations tant au niveau de l'emploi qu'au niveau du logement, qui étaient déjà en difficulté.
Alors, on va remettre le reportage. On a eu une petite erreur de manipulation. Veuillez m'excuser. Voilà donc ce reportage de PFM sur la précarité, notamment au sein des logements, pendant la période de confinement.
La crise sanitaire étant aussi une crise économique, ce sont les personnes modestes qui sont en première ligne pour subir le choc. Si l'endiguement de l'épidémie semble proche, la situation économique risque, elle, de s'aggraver, exacerbant les situations de précarité. En tant que président de l'Union départementale du Pas-de-Calais de la Confédération syndicale des familles, Jean-Luc Durier, rencontré à la Maison des syndicats de Béthune, dresse un état des lieux de la situation.
Il faut déjà dire en entrée, si tu veux, c'est que la crise, elle a exacerbé des situations tant au niveau de l'emploi qu'au niveau du logement, qui étaient déjà en difficulté. On va d'abord parler de l'emploi, puisque les ressources vont effectivement avoir un impact, bien sûr, sur les capacités des personnes à payer leur loyer, par exemple. Ce qu'on a pu constater, c'est donc qu'il y a effectivement, malgré ce qu'a dit le gouvernement, il y a des licenciements, il y a des fins de contrat à durée déterminée, il y a bien entendu les intérimaires qui n'ont plus la possibilité de travailler, enfin qui n'ont pas eu en tout cas pendant longtemps, même si ça redémarre un petit peu. On a le problème des auto-entrepreneurs qui eux aussi ont vu cesser leur activité sans aucune autre possibilité d'indemnisation, même si l'État a annoncé qu'il y aurait des aides, c'est assez difficile à mobiliser. Donc on se trouve dans une situation où un grand nombre de personnes qui étaient déjà en précarité de par leur situation de l'emploi se sont retrouvées pratiquement du jour au lendemain sans ressources. Et les aides apportées par l'État ne concernent pas toutes les personnes. Donc on a des personnes qui se trouvent exclues des dispositifs d'aide. Je disais tout à l'heure que la crise, elle a exacerbé les situations. C'est le cas aussi au niveau des entreprises. On a un certain nombre d'entreprises qui vont essayer de profiter de la situation sanitaire pour procéder à des licenciements. Souvent des entreprises qui étaient déjà en difficulté, qui vont profiter de cette situation de crise pour mettre fin à des contrats, même parfois des contrats à durée indéterminée. Donc, on a aussi tous les entrepreneurs voyous, et ça, c'est plus, on le retrouve plus au niveau des petites entreprises, des patrons voyous qui, du jour au lendemain, décident que la loi, c'est la leur, et pas la loi de la République. Donc, on a des situations comme ça, où, du jour au lendemain, on convoque des gens leur disant « je ne peux plus te payer, dégage ». Quasiment, on a des exemples un peu comme ça. Déjà, on a cette situation-là en entrée. Et forcément, en sortie, on a des gens qui se retrouvent sans ressources. J'étais sur la liste là, avant de venir ici. J'étais avec quelqu'un qui est au Resto du Cœur et à Saint-Vincent-de-Paul, qui disait qu'effectivement, et bon, on constate aussi nous avec le Secours Populaire ici sur le secteur, le nombre de bénéficiaires de ces associations caritatives a explosé. En tout cas, le nombre de demandes de secours auprès des associations caritatives. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va durer.
Alors, on a commencé à évoquer les situations de précarité, dont le nombre explose avec cette crise sanitaire et le confinement. Dans ce cas-là, quels sont les dispositifs, quelles sont les réactions possibles, sachant qu'évidemment, ça se fait dans l'urgence.
Le souci, c'est que d'abord, il y a eu effectivement des aides qui ont été annoncées par le gouvernement, mais ces aides ne concernent pas toutes les personnes. Les aides concernent essentiellement les bénéficiaires de l'APL, pour parler des aides financières pour le logement, à condition qu'ils aient des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'aide. Même chose, il y a une aide concernant le RSA, pour les bénéficiaires du RSA. Mais tout le monde n'est pas bénéficiaire du RSA. Dans le parc locatif, pour parler du parc locatif HLM, on a des personnes qui sont des petits retraités, mais qui ont une retraite qui est juste au-dessus des plafonds pour bénéficier du RSA. On a un blanc un petit peu sur les personnes qui bénéficient de pensions d'invalidité. On a le souci des auto-entrepreneurs, qui n'ont pas forcément la possibilité de rentrer dans ces dispositifs. Donc, effectivement, il y a des aides annoncées. D'abord, elles sont minimes, 150 euros pour les bénéficiaires du RSA, 100 euros par enfant pour les bénéficiaires de l'APL. Mais ça n'est qu'une petite rustine sur la grosse fuite au niveau des revenus.
Nous sommes toujours avec Jean-Luc Durier de la Confédération syndicale des familles. Au-delà du constat, il évoque ce qui pourrait être une réponse au problème de la précarité du logement, une politique ambitieuse de sanctuarisation et de socialisation du logement.
On est dans une situation où le gouvernement, je pense, n'a pas pris la mesure de ce qui est à venir. On était déjà, pour parler des difficultés de paiement des loyers, on était déjà dans le secteur, et notamment sur le secteur de Bruay, pour prendre cet exemple, dans un taux d'impayés au niveau des bailleurs HLM qui était record. Il est évident qu'avec la crise, ce taux d'impayés va encore augmenter. Mais la vraie question, c'est de se poser aussi les vraies questions, justement. Sur le logement, pour prendre cet exemple-là, mais ça, on pourrait le prendre aussi sur l'emploi. Sur le logement, la vraie question, c'est quels choix politiques sont faits en matière de logement HLM. On ne se pose pas la question, la vraie question du logement HLM. C'est-à-dire que le logement est toujours aujourd'hui considéré comme un marché. Et c'est le même problème pour la santé, tant qu'on aura cette logique financière, tant qu'on aura cette logique où on considère que le logement est un marché, à partir de ce moment-là, on ne mettra pas en œuvre les vraies solutions. Et aujourd'hui, la question devrait être plus largement portée, je dirais, la construction, de la rénovation thermique ici dans la région, des logements qui sont souvent encore chers, même si c'est des logements HLM, par rapport aux prestations qui sont données. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, quelle politique de logement doit-on mener ? Il y a je vais citer des classiques, je crois que c'est Engels qui a sorti un petit opuscule qui s'appelle « La question du logement ». Et la réponse de Engels, c'est de dire Il n'y a pas de réponse en matière de logement dans le système capitaliste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans un système de socialisation du logement. Et la vraie réponse, à mon avis, elle est là. Ça veut dire effectivement peut-être qu'on fasse en sorte que les locataires, déjà dans un premier temps, comme tu le disais, se regroupent, s'organisent, se créent des groupements de locataires, se donnent les moyens d'intervenir. C'est pas simple parce que tout dans le système a été mis en place pour que chacun fasse sa petite sauce soi-même et se renferme sur ses problèmes. Mais effectivement, pour ma part, je pense que la vraie démarche, la vraie réponse à tout ça, c'est une démarche collective au niveau des locataires et au niveau des politiques également, qu'on reprenne de façon drastique depuis le début cette question du logement en disant le logement n'est pas un marché, n'est pas une marchandise, c'est un droit, c'est une obligation de loger les gens et il faut qu'on y réponde de façon sociale. Mais sociale au sens de socialiser, c'est-à-dire pas de l'aide sociale.
Toujours sur la question du logement, il va se poser la question des expulsions. Puisqu'il y a la fin de la trêve hivernale a été reportée vu qu'elle tombait en plein pendant le confinement. Il va y avoir un moment donné où cette trêve va être levée. Les organisations revendiquent un certain nombre de mesures, dont un moratoire sur les expulsions. Donc est-ce qu'on peut parler de ça et de l'ensemble de ces mesures ?
Avant de parler des expulsions, il y a toutes les procédures qui sont relancées actuellement, tant par les bailleurs que par les organismes tels que les huissiers, les sociétés de recouvrement. On est dans une situation, effectivement, où on nous parle de cette fameuse charte-là, où les bailleurs s'engagent à trouver des solutions individualisées pour aider les personnes en difficulté, etc. Moi, j'y crois pas trop. Je le dis comme je le pense. Je n'y crois pas trop au vu des pratiques qui se font, qui se faisaient déjà bien avant la crise. Et on a notamment des bailleurs ici sur le secteur qui sont spécialistes des demandes d'expulsion, des demandes d'assignation au tribunal, etc. Je ne vais pas le citer, ces maisons est citée. On a tout un travail à faire par rapport à cette pression juridique. Parce qu'il faut effectivement pouvoir faire face, mais c'est énormément de travail à chaque fois. Et en même temps, on est aussi sur à nouveau de l'individualisation. Or, ce que nous pensons, c'est qu'il faut répondre globalement au problème. Cette globalisation, pour moi, elle passe par une gratuité des loyers. Alors ça revient un petit peu à ce que tu évoquais à propos de la grève des loyers. Effectivement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais c'est très difficile à acter une grève des loyers au niveau des locataires. Il y a un manque de conscience collective qui est jour au niveau du logement. C'est souvent une affaire individuelle, le logement. Or, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on arrive à remobiliser collectivement les locataires et que ça soit une réponse globale qui soit faite et non pas une réponse individuelle. Aujourd'hui, pour nous, CSF, il me semble indispensable qu'on arrive à mobiliser les locataires. C'est pour ça que notre action, elle se fait dans les commissions de concertation locative, dans les conseils d'administration, mais la première réponse qu'on doit avoir, elle doit être sur le terrain, faire comprendre à la population que ça passe par un engagement de chacun et de tous. Pour que on changera le monde d'après ne va pas changer comme ça, au contraire. Je ne sais plus qui disait qu'il serait certainement le même et en pire. Et si on veut qu'effectivement il y ait un changement, je ne sais pas si tu as vu la plateforme qu'ont signé les 350 organisations sur le monde d'après, avec un programme qui ressemble à celui du Conseil national de la résistance de 1945. Ce monde d'après, il est entre nos mains, il est entre les mains de tous, et c'est maintenant qu'il faut que les gens se mobilisent. Alors, c'est compliqué quand on est dans les difficultés, c'est compliqué quand on court après les sous pour pouvoir payer son loyer, son électricité, à manger aux enfants, etc. C'est encore plus compliqué avec la situation sanitaire, parce qu'on ne peut pas, faire d'aussi grands rassemblements qu'on le souhaiterait, mais de mon point de vue, C'est effectivement la seule entrée possible dans une action, ça serait une action collective.
C'était Jean-Luc Durier, président de l'Union départementale du Pas-de-Calais de la Confédération syndicale des familles. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà donc pour ce reportage de Radio PFM signé Luc Chaden et concernant donc la précarité, notamment au niveau du logement pendant le confinement et le post-confinement évidemment, puisque comme vous l'avez entendu dans ce reportage, eh bien effectivement les expulsions risquent de reprendre dans quelques semaines, voire quelques mois. Hein.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Et nous allons donc à présent nous intéresser, comme je vous l'annonçais en début d'émission, à ces mouvements contre le racisme et contre les violences policières avec le groupe Amnesty International de Lens-Liévin, en la personne de Claudine Kaiser. Et on excuse évidemment Anne Savinel qui s'était proposée justement de nous répondre hein, au départ à cette interview, puisqu'elle a eu un empêchement. Donc en tous les cas, on la remercie déjà de nous avoir répondu favorablement hein, pour l'interview. Et donc, on accueille à présent Claudine Kaiser. Bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'être avec nous. On va d'abord...
Et on vous remercie de nous donner la parole également. Merci.
Alors, on va tout d'abord rappeler, si vous le voulez bien, hein, le contexte de l'affaire George Floyd, qui a été un petit peu le déclencheur de toutes ces manifestations antiracistes à travers le monde. Cet homme a été interpellé au départ hein, pour un délit, semble-t-il, mineur, hein, diffusion de faux billets. Alors, que sait-on aujourd'hui des circonstances de sa mort ?
Eh bien, donc effectivement, il était dans une épicerie et l'employé de cette épicerie, croyant qu'il avait tenté de payer avec de la fausse monnaie, avait contacté la police. Mais cet appel s'est avéré fatal puisque la police a fait un usage illégal de la force, en l'occurrence un plaquage au sol, un plaquage ventral très 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 violent qui a, bon ben comme on l'a tous entendu et on a pu le constater, qui a malheureusement ôté la vie à cette personne.
Voilà, donc et le policier incriminé, hein, Derek Chauvin, est poursuivi, hein, et c'est vrai que cette technique d'immobilisation, j'allais dire, elle a duré plus de 8 minutes et elle a abouti effectivement à l'asphyxie, hein, à l'étranglement hein, de George Floyd. Est-ce que du point de vue d'Amnesty International, cet acte d'un policier américain fait figure d'exception ou est-ce ancré aux États-Unis, hein, j'entends.
Alors, je suis obligée de répondre que malheureusement, non, ce décès, il est survenu dans le siège d'une série d'actes de violence raciste qui vivent les Afro-Américains depuis de longues années et qui met en lumière l'ampleur stupéfiante de la violence et la discrimination aux États-Unis. Il y a eu un certain nombre d'homicides par les forces de l'ordre. Hein. Je peux par exemple citer la mort de ce noir qui faisait son jogging, d'une femme, Breonna Taylor, qui était endormie dans son appartement lorsque la police a tiré sur elle. Et on constate malheureusement que les violations des droits humains commises par la police à une fréquence particulièrement importante à l'encontre des minorités raciales et notamment des Afro-Américains. Rien qu'en 2019, elle a été impliquée dans la mort de plus de 1000 personnes aux États-Unis.
Comment expliquez-vous que cette vague de protestation soit plus importante aujourd'hui ?
Alors, effectivement, il y a de plus en plus d'associations aussi qui se rebellent, mais on ne peut pas s'empêcher d'associer cette augmentation de protestations aux propos de plus en plus décomplexés et racistes du président Trump. Hein. Et je crois que là, c'est une réaction des associations face aux discours haineux, raciaux et discriminatoire du plus haut niveau de du pays.
Alors Claudine Kaiser, un parallèle a été fait entre cette affaire et l'affaire Adama Traoré en France. Est-ce que c'est justifié selon vous ?
Eh bien, ce qui est justifié, c'est qu'effectivement, il s'agit de décès suite à un abus des forces de l'ordre et d'intervention. Très très violente. Donc je pense que ce parallèle il est justifié, mais là où on ne peut pas avoir la même approche, c'est que l'histoire des États-Unis est quand même différente de la nôtre en termes de passé esclavagiste et de dispositions raciales légales qui ont été très longtemps légales aux États-Unis. Donc en ce sens, nous n'avons pas le même parcours, mais le résultat des violences policières, il arrive à la même chose, c'est-à-dire à des violences extrêmes, des violences infondées et puis des décès qui ne devraient jamais avoir lieu.
Alors à la base de ces deux affaires, hein, il y a des délits de commis, des résistances parfois des personnes interpellées, et beaucoup mettent en cause les techniques d'interpellation et d'immobilisation de la police. Faut-il interdire certaines de ces techniques d'après vous ?
Alors clairement oui, hein. Amnesty International dénonce depuis très longtemps la technique du plaquage ventral en particulier, hein, puisqu'elle peut conduire à des blessures graves et à la mort, hein, on l'a encore constaté. D'ailleurs, son utilisation même fait débat depuis plusieurs années. Et Amnesty a plusieurs reprises condamné cette pratique de plaquage au sol depuis très longtemps. Par ailleurs, il n'y a pas que cette pratique d'immobilisation qu'Amnesty a dénoncée, puisqu'on a pu constater notamment lors des manifestations des Gilets jaunes, qu'il y avait des mesures disproportionnées de la part des forces de l'ordre à l'égard des manifestants, et notamment même de manifestants pacifiques. Donc on peut citer rapidement l'utilisation massive des gaz lacrymogènes, les recours aux techniques de NAS, les grenades explosives, les grenades de désencerclement et ces fameux lanceurs de balles LBD. Donc, auxquels les forces de l'ordre ont eu un recours excessif. Et d'ailleurs, la France, elle a été épinglée par le Conseil de l'Europe, les Nations Unies et le Défenseur des droits par rapport à cette question.
Alors, ce matin, le syndicat Alliance, un syndicat de policiers, a écrit au ministère de l'Intérieur pour demander justement le maintien de cette technique de prise d'étranglement, et demande aussi la création immédiate d'une commission de travail validant une nouvelle méthode. Comment un policier peut-il intervenir aujourd'hui, d'après vous ? Est-ce qu'il faut revoir la formation des policiers, par exemple ?
Alors, c'est effectivement, la formation des policiers, elle est indispensable. C'est quelque chose qui est demandé par Amnesty depuis très longtemps. On a sorti d'ailleurs un rapport en 2011 qui pointe toutes nos recommandations. Et on constate également que dans les autres pays, il y a les techniques de maintien de l'ordre sont quand même beaucoup plus douces que celles utilisées en France. On l'a notamment encore constaté lors des manifestations. Et ce recours excessif à la force par les forces de l'ordre, qui a donné des qui a commis des dégâts importants, doit vraiment être revue et par les policiers, dans le cadre de la formation des policiers, afin de protéger davantage les droits des personnes. Oui.
À quel pays
nous
vous
opposons
faites...
clairement à ces pratiques violentes injustifiées.
Vous parliez à l'instant de pays dont la police disposerait de techniques plus douces, entre guillemets. Vous faites référence à quel pays ?
Eh bien, écoutez, on peut, par exemple, en Allemagne, où les techniques sont plus de l'ordre du dialogue, de la désescalade, afin justement de prévenir cette nécessité de recours à la force de façon systématique. Hein. Ces pratiques, elles doivent sans cesse être accompagnées d'un respect des droits humains, et la question du dialogue est vraiment quelque chose est vraiment une technique qui porte ses fruits dans ces pays-là. Voilà, on a pu le constater.
Alors, est-ce qu'Amnesty International a constaté une progression des violences policières ces dernières années sur le terrain et notamment dans la région?
Alors, malheureusement, oui. Hein, une progression des violences policières, on a pu noter quand même des événements très violents lors des dernières des manifestations des Gilets jaunes. Hein, on se rappelle quand même que 24 personnes ont été borniées, 5 ont eu une main arrachée. Et effectivement, il faut absolument que le ministère de l'Intérieur travaille une révision de sa doctrine du maintien de l'ordre, hein, comme on le disait tout à l'heure. Alors, on est bien conscient que le maintien de l'ordre, c'est un exercice difficile, et en particulier lorsque les manifestants commettent des violences, mais ceux qui se manifestent pacifiquement ne doivent pas être maltraités, déjà. Et puis, la répression massive et indiscriminée reste illégale, et elle ne doit pas être la question de la sécurité ne doit pas être un prétexte pour ces violences policières. Parce qu'on a vraiment eu l'impression on a bien constaté que l'usage de cette force était complètement disproportionné par rapport aux situations. Alors, vous me parliez de la région. Effectivement, dans la région, on a notamment eu la question de des droits des migrants qui sont harcelés depuis des années et maltraités par les policiers. Hein. Ça, notamment en cette période de crise sanitaire.
Alors justement, pendant cette période de confinement, vous avez constaté avec d'autres associations des violences à l'égard des migrants pendant cette période. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, donc il y a beaucoup d'équipes de bénévoles et de personnes qui observent. Il y a d'une part les aidants aux migrants et puis les personnes qui observent les situations d'expulsion. Et effectivement, depuis le début de la crise sanitaire, ces expulsions de lieux de vie, lieux de vie entre guillemets, hein, puisqu'ils sont complètement informels, les lieux de vie des migrants, des expulsions qui se sont suivies qui ont été accompagnés de saisies des tentes, des effets personnels, des sacs de couchage, des couvertures, des sacs à dos, même des téléphones, et de violences excessives. On a par exemple constaté 180 expulsions de ce type à Calais, 12 à Grande-Synthe, et des personnes encore plus fragilisées par la pandémie, hein, pour lesquelles l'assistance sanitaire a été très tardivement mise en place. Et les opérations de mise à l'abri ont elles-mêmes fait l'objet de violences. Donc, le prétexte de mettre ces personnes à l'abri a été aussi l'occasion de violences observées par les associations sur le terrain.
À l'égard aussi des bénévoles de ces associations, hein, parfois.
Tout à fait. Alors, effectivement, vous avez raison de le préciser. Les victimes de ces comportements inadmissibles de la part des forces de l'ordre violence, et non seulement à l'égard des personnes exilées, mais également des personnes qui aident, notamment par des amendes, des contrôles d'identité à répétition, des mises en garde à vue, des bénévoles qui accompagnent ces migrants qui sont dans cette grande détresse. Hein. On a par exemple, entre le 17 mars et le 11 mai 2020, on a recensé 37 contraventions à l'égard des bénévoles, alors que ces bénévoles étaient en maraude au présent et aux côtés des exilés. Ce qui voudrait dire, ils n'auraient pas respecté le confinement. Donc, on voit un petit peu la perversité de l'argument. Autrement dit, ces personnes n'auraient pas été assez vulnérables aux yeux des autorités pour faire l'objet des dérogations prévues par l'attestation de circulation. Voilà, donc 4 membres de l'association Utopia ont été arrêtés et mis en garde à vue le 24 avril dernier, alors qu'ils étaient simplement en train de documenter et d'observer une violation violente d'un campement.
Voilà, ça a été effectivement filmé, cette évacuation visiblement assez violente d'un campement hein, donc qui s'est passé hein, donc le 24 avril dernier hein, mm-hmm. Ça a été filmé par donc ces membres hein, de l'association Utopia 56 hein, comme vous le disiez. Mm-hmm. Est-ce que d'après les informations dont vous disposez au sein d'Amnesty International, des enquêtes ont été déclenchées concernant ces faits?
Alors, non, malheureusement non. À notre connaissance, aucune enquête n'a été déclenchée. Nous alertons d'ailleurs cette situation depuis plus d'un an et aucune mesure n'a encore été prise. Et donc, c'est vraiment un sujet qui ne semble pas préoccuper les autorités françaises, alors qu'il s'agit vraiment de droits fondamentaux des personnes, hein, qu'elles soient réfugiées ou pas. Elles ont des droits comme tout le monde, mais les faits dénoncés ne font à ce jour l'objet d'aucune enquête que nous réclamons à corps et à cri. Voilà.
Alors, est-ce que, d'après toujours les données dont vous disposez, le racisme est le fait d'une minorité de policiers?
Bien écoutez, j'espère, enfin oui, bien sûr, on en est convaincu que c'est une minorité de policiers, mais qui fait beaucoup de dégâts et beaucoup de bruit. Et on est bien sûr conscient que les conditions de pratique, de conditions de travail des policiers sont complexes. Et encore une fois, ce sont effectivement qu'une minorité qui sont racistes et de manière générale, il ne faut pas du tout que la sécurité soit le prétexte de ce racisme, donc qui ne peut être en aucun cas justifié.
Des syndicats de policiers appellent également à une grève des interpellations. Votre réaction?
Écoutez, moi je peux pas me prononcer sur les modes d'action que les policiers souhaitent mettre en place pour que leur métier soit reconnu. Après, donc ça c'est le type d'action, c'est leur choix. Dans la mesure où les actions proposées sont respectueuses des droits des personnes, liberté syndicale, entre autres, oui.
Plus largement, comment combattre le racisme aujourd'hui? Faut-il, par exemple, regarder en face notre passé colonial, lever certains tabous autour de cette question? C'est toujours quelque chose d'assez difficile, ça.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous évoquez là. Il faut absolument en parler, échanger, déconstruire les a priori, lever ces tabous. Et c'est un travail qui est loin d'être fait. Et c'est très très important pour prévenir après les situations qui dégénéreraient. Et d'ailleurs, me permet de préciser que c'est une des missions d'Amnesty aussi de parler de toutes ces situations, notamment dans les établissements scolaires, hein, où nous nous rendons régulièrement. Et ce travail pour enlever ces tabous est absolument effectivement fondamental. Oui, oui.
Pour terminer, Claudine Kaiser, quelles mesures souhaiteriez-vous voir mettre en place rapidement par rapport à la fois à ces violences policières et ces phénomènes de racisme qui sévissent malheureusement chez certains policiers?
Oui, ben je pense qu'il y a une formation importante à faire au sein des écoles de police, parce que ce n'est pas possible que des comportements comme ça perdurent. Et surtout aussi, il faut que ces comportements déviants fassent vraiment l'objet d'enquêtes, de jugements, et les familles des victimes ont absolument besoin aussi de ces enquêtes et de ces jugements, parce que sinon elles sont en incapacité de faire le deuil de la perte des personnes de leur famille. Et ces discriminations, je voudrais élargir un tout petit peu. Et effectivement, il y a les comportements racistes, mais il y a les comportements qui sont aussi discriminants vis-à-vis qu'on peut aussi retrouver vis-à-vis de, malheureusement, de femmes, de personnes LGBT, de religieux, de d'ethnie. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit évoluer dans notre société. De toute façon, ces comportements ne sont interdits par la loi, certes, mais il ne suffit pas de les interdire, il faut également qu'ils soient suivis d'enquêtes et que les personnes chargées de garantes de cette sécurité et de ces non-discriminations, en l'occurrence aussi les policiers, je le répète, doivent être absolument formés et sensibilisés.
Eh bien, merci beaucoup Claudine Kaiser. Je rappelle que vous faites partie du groupe Amnesty International de Lens, Livin, que vous répondiez à nos questions effectivement par rapport à tout ce mouvement aussi de lutte contre le racisme et contre les violences policières, toutes ces manifestations qui ont lieu. D'ailleurs, manifestations intolérées, on le rappelle, alors que effectivement l'épidémie de Covid-19 interdit en principe les rassemblements de plus de 10 personnes. Il y a une certaine tolérance, en tous les cas, de la part du ministère de l'Intérieur, pour le moment, en tout cas. Merci beaucoup, Claudine Kaiser.
Merci, moi, je vous remercie de nous avoir donné la parole.
Et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Noir et blanc. Une chanson que je chantais, il y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Il jouait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. Musique parfois à des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano, y'a des bottes sur mon tempo, pour au-dessous du volcan, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Une chanson que je chantais, une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo Docteur Fela. Écoute chanter la foule avec des mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Bernard Lavilliers sur Radio Plus avec Noir et Blanc en live. Tout de suite, eh bien, on va s'intéresser à l'actualité associative. « 65% des Français ont envie d'être plus solidaires. » C'est le résultat d'une enquête de la solidarité des Français à l'épreuve du coronavirus. Enquête commandée par la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et parmi donc les gestes de solidarité, un Français sur quatre a fait un don à un organisme caritatif depuis le début de l'année et un sur deux a l'intention de le faire au second semestre 2020. 49% des foyers à haut revenu, qui touchent plus de 120 000 euros annuels, comptent donner plus cette année que l'an passé. En moyenne, 2140 euros, c'était la somme donnée hein, en 2019. Alors, les domaines d'action les plus soutenus sont la santé, la recherche médicale, l'aide aux personnes démunies et l'environnement. Dans un jugement daté du 8 avril dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre, la Cour administrative d'appel de Nancy vient de valider le principe d'un bénévolat conditionné au versement du RSA, une mesure qui avait été instaurée par le Conseil départemental du Haut-Rhin en 2016. Alors, le Conseil départemental du Haut-Rhin, à l'époque, défendait contre le point de vue de nombreuses associations et contre également le point de vue du préfet, qu'il en résulterait une meilleure intégration des allocataires et des bénéficiaires. Si le tribunal administratif de Strasbourg avait d'abord censuré cette délibération, ce jugement avait ensuite été censuré par la Cour administrative de Nancy. Le Conseil d'État, en juin 2018, avait apporté une réponse plus nuancée en rappelant qu'il existait des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle consubstantielles au droit du RSA. Et donc, selon le Conseil d'État, un tel bénévolat pouvait donc être rendu obligatoire par contrat après négociation au cas par cas en l'assortissant d'un certain nombre de préalables et de conditions. notamment pas de caractère automatique ni systématique, et la nécessité d'inscrire le bénévolat dans un contrat librement débattu, énumérant également des engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Et donc la Cour d'appel administrative de Nancy vient de définitivement trancher donc ce litige qui a duré plusieurs années. Le versement du revenu de solidarité active peut être légalement subordonné à la participation à des actions de bénévolat, à condition d'une part que ces actions soient prévues dans le contrat d'engagement réciproque élaboré de façon personnalisée dans les conditions prévues, et d'autre part que de telles actions puissent, y compris lorsqu'elles sont disponibles pour occuper un emploi ou créer leur propre activité, contribuer à une meilleure insertion professionnelle et qu'elles restent compatibles avec la recherche d'un emploi. Fin de citation. Cette décision, donc, qui appuie donc le jugement du Conseil d'État de 2018 et qui précise donc le mode d'emploi de ce dispositif, ça risque d'avoir évidemment beaucoup de conséquences dans certains départements, certains endroits en France. En tous les cas, voilà, peut-être qu'effectivement ce sera un changement assez conséquent pour beaucoup de bénéficiaires de ce dispositif. Une plateforme de recueil de dons Soutien ton club a pour objectif de relancer les clubs associatifs sportifs après le confinement et également de pouvoir solutionner leurs problèmes de trésorerie. Une semaine après son lancement, 2000 clubs se sont inscrits. Cette opération Soutien ton club a été lancée en concertation par les principaux acteurs du sport en France, le ministère des Sports, la Fondation du sport français, ainsi que le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français. Ainsi que l'Agence nationale du sport et les associations de collectivités locales. Il faut quand même rappeler que le sport en France représente 360 000 associations et 16 millions de licenciés, qu'actuellement les pertes financières subies par ce secteur sont très importantes. Voilà, c'est la fin de cette émission Fréquence Association. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Microscope sur Radio Plus, le magazine des radios associatives du nord de la France. Et ensuite, à 11h, c'est Savoir Plus que vous allez retrouver. Très bonne matinée à toutes et à tous.
La vie, c'est n'importe quoi. C'est la fête, c'est n'importe quoi, ce sera